Il est 14h sur Radio Libertaire 89.4 et on se prépare pour Tempête sur les planches. Alors jetons un petit coup d'œil sur les animations à la librairie Publico 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris, métro République au Bac-en-Foufille du Calvaire. La librairie est ouverte du mardi au vendredi et le dimanche de 13h à 19h30, le samedi de 10h à 19h30. Voilà, alors jeudi 16 mars, jeudi prochain, Guns and Roses, les objets des luttes féministes, parce que c'est le mars féministe à la librairie du Monde Libertaire. Alors jeudi 16 mars avec Mathilde Larère, édition du De Tours. Et voilà, ça c'est donc Guns and Roses, les objets de lutte féministe, des objets convoités, détruits ou brandis pour tous les combats, égalité, droit de vote, libre disposition de son corps contre les violences ou dans les luttes des travailleuses ou de ménagères. Ça c'est le jeudi 16 mars à 19h30. Samedi 18 mars à 16h, un concert. Jeanne Alexander chante Catherine Ribeiro. Jeanne interprète à sa manière les chansons de Catherine Ribeiro, surnommée La Passionaria Rouge des années 1970. Ce sont quelques pépites du patrimoine francophone, Paix, Soleil, L'Enfant du Soleil Couchant ou encore Jusqu'à ce que la force de t'aimer me manque. Voilà, alors ça c'était le samedi 18. Vendredi 24 mars à 19h30 entre Vernon et Mantes, recueil de poèmes et dessins par Marie-Claire Calmus, Edinter 2023. Entre Vernon et Mantes, entre fleuves et collines, la rêverie et la contemplation nourrissent l'imaginaire à travers la mélancolie, un certain humour, la joie d'être pleinement vivante comme les animaux et les arbres. Vendredi 24 mars à 19h30. Et le lendemain, samedi 25 mars, de 18h à 22h, non, c'est dans deux semaines, c'est samedi 25 mars, de 18h à 22h, Girls in Noise, un DJ set libertaire et féministe du collectif MQM. Ce sont des rebelles du rock antisexiste, des militantes punk, rap et griot, girls. Les féministes de tous les continents joueront sur les platines des Riot Girls, etc. Donc ça c'est samedi 25 mars de 18h à 22h à la librairie du Monde Libertaire. Je vous rappelle l'adresse 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement de Paris, métro République au Bac-en-Foufille du Calvaire. Voilà, et maintenant on va lancer cette tempête sur les planches. Ce sera une tempête pour Charlotte.
À vos postes de TSS, que la dernière fois. Il me semble vous reconnaître. Quel auditoire sympathique et charmant.
C'est Thomas d'Hambourg, on commence Tempête sur les planches d'aujourd'hui autour de Charlotte. Charlotte qui, bon, ressuscitée, elle est au Théâtre du Nord-Ouest par Patricia Piazza et sa compagnie, les Filles de Gaïa. C'est Thomas d'Hambourg et je vous salue. On va aujourd'hui vous présenter Charlotte, un spectacle en hommage à Charlotte et Patricia Piazza, qui est autrice et metteur en scène du spectacle. Elle va nous expliquer de quoi il s'agit. Ça se joue dans un théâtre tout à fait particulier et très intéressant, le Théâtre du Nord-Ouest, un lieu assez anarchique, dont on a parlé quand même régulièrement ici, qui se trouve en plein Paris. Et voilà, maintenant, c'est une histoire qui tourne autour de la psychiatrie, d'un système qui peut être brutal, violent, qui fait des victimes, et Charlotte est victime de ce système. Donc, Patricia Piazza, tu as écrit cette pièce justement pour évoquer Charlotte. Mais tu peux nous introduire en cette matière.
Bien sûr, oui. Bonjour. En effet, j'ai écrit cette pièce, j'ai mis en scène en hommage à Charlotte Piazza, ma fille, qui a été victime de violences carcérales et de violences psychiatriques. C'est-à-dire qu'elle a été condamnée pour des faits à l'âge de 20 ans et son incarcération a été très violente, comme de toute manière toutes les incarcérations. Et de là, s'est développée une schizophrénie qui a été mal prise en charge ensuite à l'issue des 3 ans de prison. Et elle a été internée via le préfet de police en asile psychiatrique. Et là, elle a été victime de violences aussi, dans le sens où elle a été très mal soulagée et très mal prise en charge.
Tu peux déjà nous présenter les comédiennes qui sont venues avec toi.
Alors toute la troupe n'est pas venue, mais on a Julia Bocken qui interprète donc le rôle de Charlotte, et on a Laetitia Lemaire qui interprète mon propre rôle, c'est-à-dire le rôle de la maman de Charlotte. Donc Julia vous parlera sans doute de la façon dont on a travaillé le rôle, qui a été ça a été quand même un gros travail. C'est un travail de purement théâtral, avec beaucoup de mots à dire, on va dire. Et à l'inverse, Laetitia, qui interprète donc le rôle de la mère, est plus sur quelque chose de corporel, quelque chose de musical, qui est, comme j'aime toujours le faire, est proche donc du théâtre corporel, un peu entre la danse, un langage entre la danse et le théâtre. Et Laetitia donc s'est emparé de ce travail-là, voilà.
Mais en première chose, on est bien sûr un peu comme tétanisé, parce que ça nous parle d'une douleur immense et on se demande comment on peut en parler avec toi, si c'est ta fille, s'il lui arrive une chose pareille, une maladie, qu'elle subit de telles violences. Mais comment tu arrives à surmonter ça? Où est-ce que tu y arrives? L'écriture, elle est venue donc assez immédiatement après son suicide.
Oui. Alors c'est vrai que j'ai commencé à écrire en mars 2022. Charlotte est morte en mai 2021. Il s'est trouvé que pour moi, à peine un an après, j'ai végété pendant 9 mois. Et tout à coup, ça s'est révélé comme quelque chose de vital pour moi, une espèce d'élan d'écriture. Je savais même pas, en fait, au départ, ce qui allait sortir de ça. Je me suis lancée comme si j'étais inspirée par Charlotte elle-même pour crier vengeance, en quelque sorte, et pour dire... Moi, ça a été une façon de survivre, clairement. Ça va donc faire un an que j'ai commencé à écrire... Et ça va faire 9 mois, en fait, qu'on est sur les répétitions. Enfin, là, on a commencé à jouer le 25 février. Mais donc, on a répété pendant 8 mois. Et c'était vraiment une façon de survivre pour moi. Une façon de faire... Alors, c'est assez étrange parce que c'était une façon de la faire revenir sans arrêt, la faire revenir sans arrêt. Et bien, maintenant qu'on est sur scène, je me rends compte, elle n'est toujours pas revenue, mais malgré tout, à chaque représentation, j'ai l'impression de revivre avec elle. Enfin, c'est un petit peu particulier. Mais j'ai absolument besoin de faire savoir ce qui s'est passé. Ça concerne Charlotte. Elle s'est... défenestrée lors d'une permission où on m'avait confié ma fille. Elle s'est, en état de souffrance, elle s'est jetée par la fenêtre de chez moi. Mais donc, évidemment qu'elle est toujours morte, évidemment, mais oui, pour moi, c'est une façon de la faire revivre à chaque fois et une façon de dire que oui, ça concerne Charlotte, mais oui, ça ne concerne pas que Charlotte. Ça concerne malheureusement toutes les personnes qui ont ce parcours carcéral, parce qu'il faut être d'une force. Enfin, je ne pense pas même qu'on puisse, avec toute la force qu'on puisse avoir, supporter de tels traitements. Et ensuite, la psychiatrie, en tout cas telle que là, elle était pratiquée, puisqu'en fait, c'est via l'État, là où elle a été internée. C'est pas la maison de Solène ou je ne sais quoi, ou même Sainte-Anne. Hein. C'est pas du tout ça. C'est un endroit où, au lieu de les mettre en prison, on les met là parce qu'on les juge irresponsables de ces actes. Et c'est vraiment... la honte, cet établissement est un établissement public et c'est la honte. Ça s'appelle l'eau vive. Il faut absolument que le nom soit su et entendu. C'est l'eau vive et c'est une honte.
Alors c'est quoi l'eau vive?
Alors l'eau vive, c'est un asile psychiatrique où 80%, voire 90% des malades internés sont donc internés sur ordre du préfet via un juge. Et ce sont donc de gros malades. Enfin voilà, ils ont des grosses pathologies. En l'occurrence, pour Charlotte, il s'agissait de schizophrénie très très importante. Et ils sont internés via donc le préfet, via un juge. Et donc nous, on n'a absolument pas la main. Et c'est comme une incarcération, mais en psychiatrie. Et je pense que là, il y a un abandon total. Déjà, quand on voit les locaux, c'est d'une vétusté. Enfin, c'est rien de le dire. Et puis, l'équipe soignante est relativement démissionnaire. Donc... voilà, la preuve en est. Charlotte n'est pas d'ailleurs la seule victime de cet établissement. On a retrouvé d'autres personnes mortes à la suite de mauvais traitements et en tout cas au moins au bas mot de manquement. Voilà. Charlotte est en tout cas de victime noir sur blanc, la troisième victime. Mais il y en a beaucoup sous le tapis, cachés comme la poussière. Donc, nous, on veut s'élever contre cet établissement. On veut s'élever contre... alors, on va pas être contre les personnes, on va dire qu'on est contre l'établissement. Mais oui, c'est important de le dire. Et puis, le théâtre et l'écriture ont été ce premier vecteur, en tout cas, pour faire connaître cette histoire et pour dénoncer. Et pour dénoncer aussi la violence d'un système carcéral... sans foi ni loi, quoi. Enfin, voilà.
Oui. Je me souviens d'une pièce dont j'avais parlé avec un auteur-metteur en scène, en fait, qui avait écrit une pièce sur son propre frère, qui était schizophrène aussi, et qui fait tout un parcours à travers les traitements, les institutions, etc. C'était pas aussi violent, mais quand même assez désespérant. Tout de même. Et là, hier, j'ai parlé avec une chorégraphe qui consacrait une pièce à Ida Rubinstein, qui elle, avait été internée par son beau-frère. Elle est sortie rapidement. Mais quand même, oui, parler de parcours carcéral et de quelque chose qui se rapproche de la prison, il y a des raisons de le faire maintenant. Qu'est-ce qui se passe autour de cet établissement? Est-ce que vous essayez des actions en justice?
On essaie, on aimerait intenter une procédure, oui, on aimerait. Maintenant, pour le moment, on est en quête d'un avocat qui accepterait... à moindre frais, voilà, tout le problème est là. C'est que on a contacté une avocate qui a accepté de prendre notre affaire, mais pour le moment, on n'a pas les moyens de se lancer, donc on essaie de trouver un avocat, peut-être un avocat militant ou qui accepterait d'intenter une procédure contre, du coup, ce serait contre l'eau vive. Contre l'établissement, oui, puisqu'on peut pas attaquer la prison, hein, bien sûr, mais l'eau vive, oui, on peut quand même, parce que là, il y a une vraie erreur médicale, enfin, il y a un vrai manquement, il y a une maltraitance, enfin, il y a mise en danger de la vie d'autrui, quoi.
Puisque c'est une question intéressante. Qui est le gestionnaire d'un établissement pareil?
Ça dépend de l'État. Alors après, le gestionnaire en lui-même, ça doit être un fonctionnaire, j'imagine.
Est-ce que c'est un prestataire dans le privé? Ou est-ce qu'on a déjà privatisé ça? Mais bon, on parle par-ci par-là aussi de privatiser les prisons, n'est-ce pas?
Oui, alors là, pour l'instant, c'est pas le cas. Je crois que c'est pas le cas. Ça dépend vraiment, pour l'instant, ça c'est vraiment quelque chose de public. Un établissement public.
Et alors, les filles de Gaïa, vous êtes, tu écris, c'est une troupe. Une troupe, ça veut dire, on travaille ensemble un peu sur la durée. Alors, vous qui êtes ici, Julien et Laetitia, comédienne, interprète de la pièce, est-ce que vous avez déjà un parcours avec Patricia ou est-ce que vous avez rejoint la troupe?
Moi, c'est la première fois.
Moi aussi.
Tout nouveau.
Donc, et comment est-ce que vous l'abordez? Puisque bon, on a quand même une relation personnelle avec la metteur en scène. Maintenant, comment est-ce que ça vous atteint? Ou est-ce que vous arrivez à aborder ça comme une pièce de théâtre qu'on interpréterait, de personnage, du répertoire, quoi?
Personnellement, je pense pas qu'on puisse aborder ça de façon... on peut pas aborder ça de façon comme une simple pièce de théâtre. Moi, je sais qu'on a travaillé beaucoup la main dans la main avec Patricia. Ça a été un véritable accompagnement, toujours très disponible, beaucoup dans le détail aussi. Ça a été des longs mois, des très très longs mois de travail, de recherche. Il y a eu ma recherche personnelle aussi sur l'univers carcéral et psychiatrique que je ne connaissais pas. Et c'est vrai qu'en approfondissant tout ça, moi je me suis rendu compte que c'était quand même dramatique ce qui se passait et que ça nous concernait tous et que ça pouvait arriver à tout le monde. Et enfin, on est tous concernés. Donc nous, on peut pas aborder un rôle comme ça, comme un rôle typique. C'est impossible. Ça nous touche forcément. Ça nous prend vraiment dans notre sensibilité.
Et en ce qui me concerne, mon rôle est quand même moins présent sur scène, donc le travail a été différent, quoi. On a eu des séances de, de recherche et répétition des chorégraphies, entre guillemets. Et Donc, enfin, j'ai été dans, comment dire, ça a été moins dense dans la durée, mais tout aussi intéressant. Et bah, pour cette pièce, enfin, comme je suis un peu à mi-chemin entre la danse et le théâtre, et puis que c'est quand même une pièce qui parle d'un message, enfin, qui porte un message. Je me vois plus comme une comment dire, interprète d'un message ou porteuse de message que comédienne. Et comment dire, ouais.
Voilà, moi, j'ai pas encore vu le spectacle, mais j'imagine que, Patricia, tu vas pas l'aborder de façon très documentaire, pas forcément avec un discours comme tout ce qu'on vient d'expliquer sur ces institutions, mais plutôt d'une. C'est plutôt une matière après poétique,
oui, exactement.
Visuelle, le corps, le mouvement. Comment est-ce que vous avez travaillé pour donner une forme à ce spectacle?
Alors, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de visuels. Bon, j'ai tâché d'aborder, d'essayer de rendre la schizophrénie à travers du visuel, essentiellement, et à travers aussi un univers musical, un univers sonore. Donc effectivement, autour de la schizophrénie, à part le docteur qui est là, qui est porteur, qui est une espèce de il représente toutes les autorités institutionnelles, la justice, la psychiatrie, enfin voilà, le Satan, etc. Donc à travers ce personnage qui est une espèce de nébuleuse d'horreur qui vient hanter Charlotte. Il évolue dans un univers sonore et un univers visuel très enfin très fort, j'espère, en tout cas suffisamment marquant pour donc évoquer cette schizophrénie, les hallucinations de Charlotte, etc. Donc la mère vient aussi participer de ces hallucinations ainsi qu'une jeune comédienne qui est là et qui elle n'est pas dans les hallucinations, mais dans des rêves. Dans des rêves, elle représente l'enfance de Charlotte, c'est-à-dire tout ce qui est poétique, rêverie, bonheur passé, etc., comme une senteur d'enfance qui viendrait la sauver, mais malheureusement qui ne parvient pas à la sauver puisque la maladie est déjà beaucoup trop avancée et que l'espèce de figure d'autorité qui vient hanter Charlotte fait son travail de sape et son travail au fur et à mesure de la pièce vraiment ne la lâche pas et finit par la tuer d'une manière concrète. Mais il y a aussi dans cette pièce une relation entre les deux co-détenus qui sont donc Charlotte et Gina, et là c'est le vecteur, là on parle on pourrait parler d'un plaidoyer anticarcéral, pour reprendre quelques termes de personnes qui ont écrit des choses. En effet, oui, c'est un petit peu via le personnage de Gina que je règle mes comptes, on va dire, avec les violences carcérales. Mais là, il y a pour le coup donc une scène, une longue scène, très très réaliste de relation entre les co-détenus, de ce qui peut se passer dans une cellule de 4 mètres carrés entre deux co-détenus quand on est presque H24 là-dedans. Voilà, donc c'est très passionnel, c'est à la fois, on peut tomber dans une forme de violence, voilà, et puis la maladie arrive là-dedans, la schizophrénie, dans la cellule, ça crée aussi des choses, des incidents entre les co-détenus, il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a du chagrin, du partage, et de la joie aussi, parce que Charlotte, tant qu'elle était incarcérée, jusqu'à ce que la maladie se développe vraiment, elles sont vivantes en prison, elles luttent, elles se refont toute une société, c'est une société dans la société, la prison, et donc elles se recréent un monde pour survivre en fait, hein, mais il y a du coup des relations très belles aussi qui se nouent. Gina, moi je l'ai connue du coup quand Charlotte est sortie de prison, elles se sont pratiquement suivies, j'ai rencontré Gina et c'est vrai qu'il y avait une très belle relation d'amitié entre elles.
Maintenant, c'était une thématique, un univers dans lequel on pourrait s'attendre à bon, de la violence, d'une forme ou d'une autre, quelque chose d'un peu lourd à porter. Comment est-ce que tu fais pour qu'on ne soit pas totalement, en tant que spectateur, pas totalement écrasé par tout ça.
Bah justement, je pense que j'ai souhaité ne pas envoyer ça comme un boulet de canon dans le visage des spectateurs qui n'y sont pour rien. Donc, ça a toujours fait partie de mon univers, la poésie, enfin, le côté poétique et le côté un petit peu onirique. Alors, je sais que c'est compliqué, mais dans ce thème-là, j'ai quand même essayé de garder de la poésie, de l'espoir, du beau, voilà, parce que Charlotte était un être solaire, un être lumineux, et malgré elle, elle a été happée, aspirée par cette spirale épouvantable, mais j'ai quand même essayé, je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, j'ai essayé de mettre... malgré tout, jusqu'au dernier moment, de l'espoir. Bon, après, elle meurt, évidemment, donc là, l'espoir s'éteint. Mais j'ai essayé, à travers aussi l'univers musical, d'emmener le spectateur sur des terrains où il peut respirer, justement, où il y a des plages de respiration, où il y a des visuels qui l'emmènent ailleurs, etc. J'ose dire que à travers le personnage du docteur, même lui n'est pas brut. Enfin, puisque même lui parle d'une manière complètement délirante. Enfin, il est dans des délires mégalomaniaques, mais son personnage n'est pas réaliste, quoi. Voilà.
Mais est-ce qu'il y a des traces de la vraie Charlotte, de ta vraie fille?
Ah oui, dans le spectacle, il y a beaucoup. La plupart, alors déjà, toutes les lettres, enfin, il y a toute la première partie, on a Charlotte seule en scène, dans la cellule, et ça, toute cette partie-là, elle lit des lettres, qui sont des réelles lettres de Charlotte, une correspondance entre Charlotte et sa mère, enfin, en l'occurrence, moi, qui est interprétée par Laetitia. Donc, tout ça, ce sont vraiment des vrais documents de Charlotte, la correspondance avec sa sœur Manon, avec sa sœur Lou, avec son frère Benjamin, la correspondance avec ses anciennes co-détenues. Tout ça, j'ai tout ça à la maison, et donc j'ai souhaité, pour être fidèle à Charlotte, pour moi, l'idée était de rendre vraiment la pièce la plus fidèle à Charlotte. Donc oui, il y a beaucoup, toutes les lettres sont des lettres authentiques. Malheureusement, les voix off aussi du docteur sont des vrais documents du dossier médical de Charlotte. Il y a aussi dans les dialogues quelques phrases que Charlotte a pu me dire, que j'ai remises dans les dialogues. Donc oui, en effet, il y a beaucoup de choses qui viennent de Charlotte, et notamment aussi des dessins. Bon, on a ma fille aînée, Manon, a aussi travaillé sur un livret. Et le livret réunit aussi des textes de Charlotte et des dessins de Charlotte, parce qu'elle dessinait énormément. Donc voilà, on essaie aussi de faire connaître Charlotte à travers ce livret qu'on aimerait pouvoir faire éditer et qu'on distribue au public avant l'entrée dans la salle pour que le public déjà... fasse un peu connaissance avec Charlotte avant même de voir la pièce, et puis avec les comédiens, Julia, Laetitia, Rémi, Picard, Lilou Lefranc et Chloé de l'Est.
Alors on va réécouter la musique de Yassen Vodenicharov, Sinfonia, mais attention, ce n'est pas la musique du spectacle. trompette sur les planches autour de Charlotte, pièce présentée au Théâtre du Nord-Ouest. On pourrait déjà dire aussi où se trouve le Théâtre du Nord-Ouest. C'est dans la rue du Faubourg Montmartre, au métro Grand Boulevard, je pense, oui. Patricia, tu peux nous dire à quel numéro de la rue du Faubourg Montmartre il y a une sorte de cour en rentre et on trouve
ça
au bout de cette cour intérieure, cet immeuble.
Exactement. On rentre au 13 rue du Faubourg Montmartre, on rentre dans la cour et là, il y a une grande enseigne, Théâtre du Nord-Ouest. Et là, c'est un peu un grand hall dans lequel on accueille le public.
Ça fait un certain bout de temps que je n'y suis pas allé, mais je suis sûr que ça n'a pas changé du tout.
Ah non, ça n'a pas. Si, ça a été quand même repeint.
Ah oui,
repeint.
Ah oui, d'accord.
Pardon, ça a été repeint.
Ah, très bien. Et puis, c'est un théâtre qui ne fonctionne pas comme certains théâtres ou la plupart des théâtres où on peut voir une pièce du 22 jusqu'au 15 du mois suivant. Ça fonctionne pas non plus comme ces théâtres où on peut voir une pièce tous les mardis pendant 3 mois. Non, vous avez vraiment des dates qui sont comme tirées au hasard, quoi. Bon.
Oui, c'est un jeu de piste. Hein. Faut chercher chaque pièce et retrouver les indices. Parce que c'est vrai qu'on est programmé, on peut être très bien programmé. Nous, c'est notre cas. On va être programmé jusqu'à fin mars, puis on reprend jusqu'à fin juin. Mais c'est vrai que c'est des dates. Tout à coup, on peut jouer 3 fois dans la semaine. Après, passer 10 jours sans jouer. C'est jamais les mêmes jours. C'est jamais les mêmes horaires. Voilà. C'est le fonctionnement du Nord-Ouest, parce qu'il y a énormément de spectacles qui se donnent. Donc, voilà, c'est un puzzle.
Oui. Alors, vous avez en tête quand vous jouez?
Alors,
vous trompez des fois?
Oui, des fois.
Ah non, c'est demain, le bon spectacle.
Mardi 14 mars à 18h30, jeudi 16 mars à 18h30, et le 23 mars à 18h30.
Non, à 20h30.
Ah, non, 18h30.
Ouais, on va vérifier.
Non, c'est 18h30. Enfin,
le
23
théâtre
mars.
Théâtre du Nord-Ouest a aussi une page sur Internet
où on peut trouver
toute la programmation, toutes les dates, tous les spectacles. C'est pas le seul spectacle qui se joue dans ce théâtre, parce qu'il y en a beaucoup. C'est justement pour ça que ça.
Oui, c'est compliqué. On peut en retrouver sur Billard et Duc les informations sur Charlotte.
Oui, oui. Mais bon, Théâtre du Nord-Ouest, point, je ne sais pas quoi.
Oui, parce que là, il y a je ne sais plus combien facilement. De spectacles qui se donnent jusqu'à l'été, au 45 ou
20.
Oui, oui.
Plus.
Et puis, il y a deux salles. Vous jouez dans la salle du bas qui est très, très particulière.
Oui.
Il faut la voir. Il faut
au moins une fois avoir vu cette salle.
Oui, oui.
Qui est quand même grande, avec une scène, avec différents niveaux de scène, des escaliers, des petits escaliers, un grand escalier, des alcôves, des portes. C'est très angoissant comme.
Et puis ce lieu fonctionne toujours dans une sorte d'autogestion par les compagnies qui sont programmées.
Autogérées.
Et alors, tout à l'heure, tu as parlé d'un parcours carcéral. Moi, je pensais que c'était une métaphore, en quelque sorte, par rapport à la psychiatrie. Oui. Une comparaison, non. Donc, il y a une vraie incarcération.
Non, Charlotte a fait 3 ans de prison. Elle a été condamnée à 4 ans et elle a fait 3 ans ferme. Enfin, elle a pris 4 ans, dont une année de sursis et 3 ans ferme. Et elle a fait ces 3 ans ferme puisqu'elle a été... elle a eu 0 remise de peine, en tout cas remise de peine perdue avec des incidents, puisque la prison, c'est ça aussi. Hein. Moi, l'autre jour, je parlais avec une ancienne détenue. C'est vrai que je lui dis, mais au fait, pourquoi, comment? Parce qu'elle avait été incarcérée... parce que Charlotte a fait 2 maisons d'arrêt et un centre pénitentiaire. Elle a fait Fleury-Mérogis, elle a fait Versailles, et après, elle a été transférée en centre pénitentiaire à Rennes. Et l'autre jour, je parlais avec une ancienne détenue qui était à Rennes. Et je lui dis, mais toi, tu as été condamnée à combien au départ? Elle a été condamnée au départ à 2 mois. Elle a fait 4 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'à l'intérieur de la prison, les incidents, on repasse en comparution. Et on peut être condamné à 2 mois. Et si on a un état d'esprit un petit peu rebelle et qu'on supporte difficilement les maltraitances, etc., on finit avec 4 ans. Et au bout de 4 ans, elle est sortie en conditionnel avec le bracelet, ça peut vraiment être une catastrophe. C'est toujours une catastrophe, mais c'est terrible, quoi. Voilà. Et donc Charlotte, elle a fait 3 ans de prison ferme, donc. Et c'est là qu'elle a développé sa schizophrénie, parce qu'elle a fait beaucoup de mitards. Enfin bref, son esprit allait rentrer. Elle a été emprisonnée le jour de ses 20 ans. Donc c'est vraiment très jeune et les esprits très fragiles. Et au bout de 2 ans et demi d'incarcération, elle a commencé à développer sa schizophrénie. C'est-à-dire, du coup, quand elle était en centre pénitentiaire à Rennes. Et voilà, elle est tombée gravement malade. Et en sortant, elle a décompensé complètement sa schizophrénie, quoi.
Alors, Julien, Laetitia, vous avez quelques paroles, des mots, des lettres de Charlotte?
Alors, oui.
Qui viennent de quel moment de son parcours?
Il y en a plusieurs. Vous avez une lettre, une véritable lettre que Chacha a écrite à sa maman. Elle lui a écrite de la prison. Et pour sa sœur Manon et son frère Benja aussi. Donc c'est 3 authentiques lettres.
Moi j'ai une autre lettre qu'elle a écrite à sa maman également, en prison.
Alors, on commence par qui ?
Je peux commencer.
Et moi, je dirais comme ça la lettre de Loulou, qui est aussi sa petite sœur, juste après. Laetitia.
Ma maman d'amour que j'aime. Je t'écris, bien que j'aurais préféré t'avoir au téléphone. Mais j'ai voulu recharger plus que je n'ai d'argent, alors ça ne va pas passer. Et mercredi, je vais au prétoire me faire juger, comme ils disent. Donc je serai au mitard à partir de là. Je pourrais t'appeler une fois par semaine, comme à peu près d'habitude. Mais je préfère t'envoyer cette lettre au cas où, pour que tu ne t'inquiètes pas trop. Je t'aime, ma maman à moi. Je t'aime et ne t'inquiète pas pour moi. J'ai de la force. Je suis forte grâce à toi. Gros, gros bisous. Je t'appelle vite.
Alors là, je vais lire une lettre que Chacha a écrite pour sa petite sœur Loulou, de la prison. Mon petit Loulou, ça m'a fait trop plaisir de t'avoir au téléphone. Moi, le moral, ça va. Je me nourris, je dors. Ce qu'on mange, c'est pas top, mais bon, ça va. Le dimanche, on a des hamburgers frites. Mais les frites sont froides et les hamburgers, bah, c'est du surgelé. Je t'ai fait un dessin de ma cellule. Voilà, Loulou. Manon est venue me voir avec maman. J'espère que tu profites de l'air du dehors, de ta liberté. Et fais pas n'importe quoi. Écris-moi. Bisous, Loulou. Une autre lettre, écrite par Chacha pour sa maman. Ma petite maman adorée. Aujourd'hui, j'ai essayé de t'appeler, mais ça marche pas. C'est compliqué le téléphone ici. Sache que je vais bien, et je voudrais pas que t'ailles mal. T'es la meilleure des mamans. Je suis trop désolée. Je t'aime de tout mon cœur, ma petite maman, et je t'aimerai toujours. Écris-moi. PS, j'ai hâte de te voir au parloir. L'autre lettre pour sa grande sœur Manon, toujours écrite de la prison. Coucou Manon, je t'écris pour dire que j'ai changé de division. Alors au début, c'était pas facile. J'ai dû me faire une place pour pas me faire victimiser. Lol. En cellule, j'étais avec une fille et elle a lancé plein de rumeurs derrière mon dos. Puis elle est sortie. Ma nouvelle co est adorable. Elle s'appelle Gina. Elle est trop gentille. Elle m'aide beaucoup. Une autre lettre, toujours écrite de la prison pour son frère Benjamin. Salut Benja, comme tu me manques, je te donne de mes nouvelles. Ça va. Je viens de tomber sur une lettre que tu m'as écrite. Parfois, je me dis que jamais tu te serais douté quand on était petit qu'une de tes sœurs se retrouverait en prison. Je me souviens. Tu disais que si un jour tu finissais clochard, tu braquerais une boulangerie pour y aller en prison, pour avoir un toit et des repas chauds. Je comprenais. Mais maintenant que j'y suis, je préférerais encore être à la rue. Ah, j'ai reçu une lettre de Nikki. Je veux le quitter pour de bon, t'avais raison. Je regrette de pas avoir écouté tes conseils. Reste célibataire. Vaut mieux être tout seul que de finir en prison. Lol. J'espère que tu profites de ta vie, de ta liberté. Bref, j'espère que tu vas bien. Tchuss Benja, réponds-moi.
Eh bien, c'est... Comment est-ce que... Tu enveloppes ça par le jeu, sur scène. Comment, en tant que comédienne, par la mise en scène, ça se passe dans quelle ambiance? De quelle manière est-ce que vous le présentez sur le plateau?
C'est assez minimaliste. Le décor, il y a 2 grillages et un lit. Et Charlotte évolue, c'est-à-dire qu'on a recréé sur la scène du Nord-Ouest, comme on en parlait, est assez grande. On a essayé de recréer par les lumières la cellule, le côté petit et oppressant de la cellule par les lumières. Donc Charlotte évolue dans cette petite cellule qui est rendue par les lumières, au milieu de ses lettres, au milieu du chantier de sa cellule, de ses affaires personnelles, ses vêtements, etc. Et l'espace s'ouvre par les lumières sur l'ensemble de la scène pour les hallucinations, c'est-à-dire pour les interventions du docteur, de la mère, de l'enfant. À ce moment-là, les lumières s'éclatent et la scène s'ouvre à l'espace, quoi. Mais on revient régulièrement à l'espace fermé par la lumière de la cellule de Charlotte et Gina.
Si j'ai bien compris, avant, il y a aussi une note d'espoir, quelque chose d'un peu plus spirituel que vous amenez aussi.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que Charlotte en prison s'est rapprochée des sœurs et d'une forme de foi. Il fallait bien se raccrocher à quelque chose. Donc, elle a trouvé une spiritualité. Ça s'est mal terminé parce que je pense qu'effectivement, quand on lit la Bible au mitard, on n'a pas la même perception que quand on la lit dans un canapé au coin du feu chez soi. On ne perçoit pas les mêmes images et tout ça s'est mélangé puisque déjà dans la schizophrénie, c'est vrai que Satan est toujours présent, le Christ est toujours présent. Donc il y a eu une espèce de fusion qui s'est faite dans son cerveau et voilà, je pense que les messages bibliques n'ont pas été forcément les bons.
Ouais. Bon, et pour moi, j'ai pas encore vu, je vais venir, ça me donne vraiment, ça me rend très très curieux de découvrir comment ça peut vraiment s'agencer et par quels états on va passer en tant que spectateur quand on voit une proposition pareille. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Parce que vous avez des retours aussi du public.
Oui, on a des retours très, très émus. Les gens sont très touchés. Je pense que le but était de faire connaître Chacha, de faire en sorte que les gens s'attachent à Charlotte d'abord et la suivent jusqu'à l'issue fatale et se demandent comment on a pu en arriver là, se demande pourquoi cette jeune fille a été si maltraitée, pourquoi tant de violence, etc. Et les retours des spectateurs sont ceux-là. C'est-à-dire que déjà, ils sont très émus et très en compassion avec Charlotte et ne comprennent en effet pas comment on peut tomber dans un parcours aussi violent en étant si jeune au départ et pas du tout prédestiné à la prison et à la maladie mentale. Donc, je pense que le public arrive à suivre Charlotte de son arrivée. Alors, on commence la pièce, elle n'arrive pas à la prison, puisque moi j'ai choisi d'écrire sur la fin de sa vie. Donc, j'ai choisi d'écrire sur la fin de l'incarcération et le transfert en asile psychiatrique. Au tout départ de la pièce, on a une Charlotte qui est encore, j'allais dire saine d'esprit, en tout cas pas encore malade. Excuse-moi, tu m'as troublée, qu'est-ce qu'il y a ?
Non, on t'écoute.
Ah, d'accord. Donc il n'est pas encore malade et ensuite on la suit dans sa maladie, dans la deuxième partie de la pièce, on est au transfert à l'asile.
Oui. Moi, je pense que le mieux, ce serait que tu nous rappelles les dates, l'adresse du théâtre, les horaires, qui ne sont pas les mêmes d'un jour à l'autre de vos représentations. Donc, il en reste quelques-unes avant que ce premier cycle s'achève. Donc, le titre du spectacle, c'est tout simplement Charlotte.
Le titre du spectacle, c'est Charlotte. Je vais laisser Julia donner les dates exactes. Il reste 3 dates avant la prochaine programmation qui commencera à partir du 3 avril.
Alors, ça sera le mardi 14 mars à 18h30, le jeudi 16 mars à 18h30 et le 23 mars à 18h30 également au Théâtre du Nord-Ouest, métro Grand Boulevard, au 13 rue du Faubourg Montmartre.
Voilà. Oh, ben merci beaucoup d'être venu. Je pense qu'on a, on a dit les choses qu'il fallait pour introduire ce spectacle. Après, quand je l'aurai vu, on aura peut-être encore d'autres points à discuter de tout ça. Ben merci,
merci
Patricia, Julia et Laetitia pour cette Charlotte. Donc, bon, très émouvante, et bon, où on va découvrir quelque chose qui, normalement, dans notre société, se passe dans l'ombre, caché, quoi, complètement caché.
Oui, exactement, caché. Il y a une omerta autour de tout ça.